Je suis assise devant mon ordinateur et je rencontre pour la première fois, via Skype, Karen, alias Golem Mécanique. Le son n'est pas parfait, les mots sont parfois légèrement déformés, mangés, mais cela correspond assez bien aux propos de Karen. C'est pourquoi j'ai choisi de laisser cet enregistrement tel quel. À la fin de cet entretien, qui dure une vingtaine de minutes, on pourra écouter une pièce de Golem Mécanique, Face A, qui dure 11 minutes et 8 secondes.
Bonjour Karen. Alors, je voulais te demander, est-ce que tu peux décrire les cycles de l'écoute, s'il y en a, dans ton travail musical?
Les cycles de l'écoute. L'écoute, pour moi, elle est toujours avec un temps de retard, on va dire. Donc j'entends des choses, je les entends sans les entendre, en fait, elles sont dans ma tête, comme une comptine ou un son concret ou une chanson, ou même pendant un concert, en fait. J'entends tout ça, je l'écoute et je l'entends. Et après, plus tard, alors des fois un quart d'heure, un jour, des mois, je me rends compte de ce que j'ai entendu, je peux le décrypter, savoir si je l'ai bien compris, s'il est bien rentré dans mon univers, et après je peux en parler, en discuter, c'est un peu comme la littérature d'ailleurs. Ça fait pareil avec la lecture. Et après, j'essaye d'être un vampire et de me réapproprier ce que j'ai entendu. Donc, je fais des recherches, j'apprends par cœur, j'essaye de faire des doublons sonores, de recréer des choses que j'ai entendues jadis, avec du faux, avec de l'artefact, de me réapproprier cet univers que j'ai apprécié, qui m'a conforté, qui m'a été familier. Et du coup, cette écoute, cette chose que j'ai entendue et que j'ai écoutée, vit avec moi, en moi et à côté de moi.
D'accord. Est-ce que pour toi, il y a une distinction, ou en tout cas, est-ce que tu as l'impression d'avoir une écoute différente quand tu es dans ton quotidien, ou quand tu es dans une situation d'errance, disons plus exotique, comme le dernier voyage que tu as fait dans les pays de l'Est? Est-ce que ton écoute, elle est activée par l'étrangeté?
J'écoute tout en fait. Je suis toujours à l'affût en fait. J'essaie d'être en fait de l'extraordinaire dans l'ordinaire en fait. Les conversations, les sons. J'ai une nature très, très mystique en fait. Et du coup, je cherche voilà, des choses étranges, extraordinaires, fantastiques, qui vont me faire imaginer des choses, me perdre dans mon imaginaire tout le temps en fait. Donc que je sois en train de cuisiner ou que je sois au milieu de Cracovie, j'écoute tout en fait. J'écoute tout et j'enregistre tout. Que ce soit avec mon téléphone, si je n'ai pas pris un dictaphone ou un enregistreur MP3, j'enregistre beaucoup de choses en fait. J'enregistre des personnes pour qui je travaille, j'enregistre le bus des fois au hasard comme ça. Et j'essaye de trouver quelque chose qui me sort de l'ordinaire, en fait. Donc oui, c'est en effet attisé par la recherche assidue d'étrangeté du quotidien.
Est-ce que pour toi, il y a une distinction entre l'écoute sonore, que ce soit du bruit ou... Mais en tout cas, sonore au sens très large, et l'écoute du sens? Est-ce que l'écoute d'un paysage sonore et l'écoute d'une conversation, pour toi, sont équivalentes?
J'aurais tendance à dire oui, en fait. Parce que c'est un peu comme regarder des tableaux d'un peintre différent, en fait. Et de chercher ce qui se cache derrière, ce qui se cache derrière le sens, ce qui se cache derrière la sémantique. Le son de la sémantique, le son des mots, le son d'un raffut, le son d'un mouvement. Donc, oui, après, peut-être j'ai une approche très organique, en fait, très, très instinctive. Je pense que je marche beaucoup par l'instinct et je mets en fait tout au même niveau, en fait. Le merveilleux comme l'atroce, dans le son en tout cas, des sons merveilleux comme le chant d'un oiseau. Des fois, je trouve une certaine poésie dans le bruit du mécanisme. Du ramassage des poubelles, en fait, une espèce de série répétitive, et ça me fait partir dans des projections, dans des travaux de composition. Ça me fait penser à qu'est-ce que je pourrais faire avec un cliquetis. Et pareil, que veut dire cet oiseau? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Est-ce qu'il est en train de m'insulter, d'ailleurs? C'est vrai que j'ai tendance à écouter tout pareil, en fait. Tout de la même manière, d'aborder n'importe quel son de la même manière, comme s'il était un potentiel, comme s'il avait un potentiel merveilleux.
Est-ce que l'écoute peut disparaître et pourquoi? L'écoute qui tombe, qui meurt?
Non, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais en fait. Parce que j'ai l'impression que même dans mon sommeil, j'écoute. J'écoute tout. J'écoute le non-bruit, le silence. Après, là je parle pour moi, ça doit s'arrêter pour quelque part. Mais le son ne s'arrête jamais en fait. Le silence absolu n'existe pas, donc je pense que notre corps écoute quand même à notre insu. Mais en tout cas, pour moi, j'écoute. Pareil, même si je suis dans un sommeil très profond, j'entends tout et. Je pourrais me réveiller au moindre danger, au moindre bruissement étrange. Mais après, je ne sais pas si c'est une déformation professionnelle, entre guillemets, mais je pense que c'est ma nature qui est ainsi, en tout cas. J'écoute tout.
Peter Sandy, qui a beaucoup réfléchi et écrit sur l'écoute, dit que l'écoute est une adresse. Qu'est-ce que tu en penses?
J'ai combien d'heures? Oui. Écouter, c'est répondre déjà. Oui, l'écoute, c'est une réponse, c'est une adresse vocale sans son.
Est-ce que
Mais
l'écoute est un pouvoir ou un contre-pouvoir? Est-ce que c'est une arme?
oui, c'est une arme, bien sûr. Bien sûr. Sinon, on n'aurait pas de service secret. Mais oui, je pense que c'est un pouvoir de connaissance déjà, de révélation, d'éveil au monde, d'éveil à soi-même aussi, de voir qu'est-ce qu'on est capable de supporter, d'écouter, d'entendre, de comprendre, de ressentir. Oui, c'est une arme. C'est une arme terrible, parce que écouter, c'est connaître et savoir. Apprendre, retenir, se servir. Donc, oui, c'est peut-être. Oui, peut-être même plus fort que parler, en fait.
Est-ce que les femmes sont culturellement plus disposées à être des écoutantes? Est-ce que c'est un pouvoir là aussi? Ou pas?
Je sais pas. Je pense que culturellement, on pense que les femmes qui, dans des temps pas si lointains, étaient plutôt maintenues dans un certain silence social, étaient plus promptes à écouter pour pouvoir avoir une place et être quelqu'un au milieu d'un échange de société qui leur était interdit. Mais je ne sais pas si ce sont les femmes qui sont des écoutantes par excellence, entre guillemets. Je pense que c'est des faux amis, ce genre de phrases, en fait. Certes, oui, mais il y a des femmes qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas entendre non plus. Pour des raisons souvent psychologiques, en fait, d'inadaptation sociale. Mais je ne suis pas sûre, en fait.
Quelles sont les conditions pour toi de possibilité d'une écoute de l'autre? Qu'est-ce qui rend possible l'écoute?
C'est de se le permettre déjà, c'est voilà, écouter, c'est déjà se mettre à la disponibilité de l'écoute elle-même, la disponibilité de la personne qui écoute ou qu'on écoute, c'est savoir s'arrêter en fait, d'une certaine manière. Savoir s'arrêter sur la personne ou sur le moment qu'on écoute ou sur la chose qu'on écoute, c'est savoir arrêter le temps d'une certaine manière, arrêter la vitesse et prendre le temps d'écouter, surtout. Parce que les gens ne prennent pas le temps d'écouter, en fait. Tout va vite, ils mangent vite, ils écoutent vite, ils répondent vite au téléphone, ils envoient des mails, ils n'écrivent pas de lettres. Ça fait un peu réac comme ça, mais tout va vite, en fait. Et donc, on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps. On n'a pas le temps d'écouter des choses lentes, on n'a pas le temps d'écouter en étant assis, en regardant la personne. On pense entendre, mais on n'écoute pas.
Est-ce que tu peux me parler de l'écoute des fantômes? Comment tu actives cette écoute? Comment elle arrive, cette écoute des fantômes?
Je pense que l'écoute des fantômes, c'est avant tout un phénomène de désir d'en entendre, en fait, de projeter comme une projection psychique sur le son, en fait, et d'être sûr d'en entendre, en fait. C'est comme à force de vouloir voir des fantômes ou voir des choses étranges, elles arrivent. Je veux pas dire qu'on les provoque, mais je pense que c'est une espèce de projection maligne de notre cerveau qui nous fait croire qu'on entend des fantômes. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'aborde et je l'ai toujours abordé. Ça, c'est les fantômes, les spectres, entre guillemets. Ce sont des sujets qui m'ont toujours fascinée, comme tout le monde est fasciné par la vie après la mort ce genre de choses un peu fantastiques, surtout nourries par la littérature Garpo, de Lovecraft plus tard, des choses fantastiques, indicibles, qu'on ne peut nommer. Donc je pense que, en tout cas, mon travail autour d'entendre des fantômes, c'est déjà les créer, parce que je ne pense pas que les fantômes existent. Et j'aimerais bien, mais je veux quand même rester encore cartésienne, un petit peu. C'est de créer des fantômes comme je pense qu'ils seraient s'ils existaient vraiment. C'est des espèces de choses, après tout, pas. Mes fantômes, en général, sont de vieilles grand-mères, aux voix distordues dans de grands souvenirs, des plaintes, des fantômes qui ressemblent plutôt à des pleureuses grecques, des Antigones ou des fantômes qui ont envie d'être très confortés. Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup le mandala et la destruction de la bande pour altérer la perception, en fait. Et en fait, c'est une fausse écoute, parce que c'est pas une fausse écoute, ce sont des faux fantômes pour une vraie écoute, en fait.
Et alors, apparemment, la technologie a un lien avec la possibilité de faire émerger ces fantômes, puisque tu as délaissé les ordinateurs et que tu as choisi de t'accompagner en fait d'outils analogiques. Est-ce que tu peux parler de ce rapport de l'écoute et de la technologie?
Ben, en fait, quand j'ai commencé à faire ce projet Golem Mécanique, je ne connaissais pas trop les pratiques expérimentales ou électroacoustiques ou la composition contemporaine. Donc j'avais un ordinateur et je bidouillais sur Acid, ou je sais plus ce que c'était comme logiciel. Il y avait des sons, je voulais faire des petites chansonnettes au piano, comme j'ai bon, j'ai toujours chanté, plutôt du rock ou de la chanson un peu écrite. Et donc je bidouillais. J'ai commencé à bidouiller comme ça, à travailler ma voix, enregistrer ma voix, faire des séquences de piano avec des faux instruments, entre guillemets, issus du logiciel. Ça a duré pendant 1 ou 2 ans. Et puis j'ai commencé à faire quelques concerts. Et avec ces quelques concerts, est arrivé les photos des concerts. Et je me voyais là, derrière mon ordinateur, très sérieuse, avec les sourcils très foncés, distiller une musique que du coup j'entendais très préfabriquée avec mon air de secrétaire de direction. Et je me suis dit, je fais quelque chose, parce que ce que je me suis dit, c'est ça que les gens voient, ils entendent quelque chose qui n'avait pas l'air d'être très mauvais, hein, mais fade, préfabriqué par un logiciel en fait, même si on a beau mettre des effets, dire oui, c'est ma voix, chance originale, mais ça avait l'air très froid, tout ça. Et puis surtout, il y avait une grande frustration due aux limites du logiciel et de l'ordinateur. Parce qu'il y a toujours des problèmes, ça bug, ça enregistre pas, et l'énergie se perd dans des problèmes techniques, et le truc il marche plus, et j'ai tout perdu mon album, et puis voilà. Et donc en fait, avec mon compagnon qui est musicien aussi, compositeur, lui aussi avait une pratique un peu de la musique assistée par ordinateur, il s'est dit qu'il fallait qu'on retourne à peut-être des choses plus organiques, plus analogiques, aux instruments. Et donc, je me suis tournée vers les Walkman magnétophones, déjà par amour du projet visuel. Et je me suis dit qu'avec ces instruments-là, j'allais recréer les slots de live et logique en réel, en fait, en tangible. Et qu'il y aurait déjà dans le visuel de mes performances quelque chose voilà, justement, le visuel de mes performances, quelque chose de plus performatif, de plus captivant pour les gens, que la musique se voit aussi. Bien cet aspect que la musique se voit, et s'entend, mais se voit aussi. Et cet aspect performatif de la musique, du coup, ça m'a engagée dans la recherche, la recherche de l'objet, fouiner, dénicher des dictaphones, dénicher des Walkman, utiliser des Revox, toucher la bande, monter ses bandes, couper ses bandes. Là, il y avait vraiment cet aspect tactile que j'avais. J'ai beaucoup peint avant de mettre à musique, beaucoup peint. Et du coup, je retrouvais cette de principe de la peinture, avoir une palette d'instruments, une palette de bandes avec différents formats, différents, monter ses cassettes, faire des cassettes loupes, les démonter, les nettoyer. Il y avait quelque chose de beaucoup plus vivant en fait. Voilà, vraiment cet aspect machine vivante. Et évidemment, la magnétique, ça me renvoie aussi. Voilà, à tous les enregistrements spirites qui ont été faits dans les années 30, 40, 60, des choses qu'on a pu faire à Aleister Crowley, d'enregistrer des séances occultes, ce genre de choses. Et c'est beaucoup ça qui m'a inspiré par ce travail sur la recherche de fantômes, en plus de l'espèce de mysticisme avec tout ce genre de choses, d'être entouré, d'être invisible, de les capter, du coup recréer, de les emprisonner sur cassette en fait.
Évidemment, avec cette histoire de fantômes, on imagine que tu penses très fort à Thomas Edison.
Oui, en effet. C'est un de, voilà, avec, comme je parlais d'Aleister Crowley, des hommes dont les travaux ont beaucoup influencé, impressionné d'abord, et influencé, surtout Edison, quand même un gars qui a été capable d'inventer le téléphone et la chaise électrique. Donc il y a un rapport entre la transmission de la vie et la transmission de la mort qui sont assez dingues chez lui. Et ce rapport, voilà, et qui avait donc commencé à réfléchir sur enregistrer les morts, et aussi, dans tout un autre style, pas trop contemporain de Thomas Edison, c'est Conan Doyle aussi, qui n'enregistrait pas les morts, mais qui les photographiait, qui était complètement fou de ça, d'occultisme, dans cette ère victorienne où on faisait des photos. Memento Mori, les photos des morts habillées de leurs plus beaux atouts, comme s'ils étaient vivants, cette espèce toujours de rapport très singulier avec l'acceptation de la mort mais dans son maquillage de la vie encore. Et c'est vrai que ce sont ce genre de choses qui ont bercé mes lectures, mon adolescence, ma vie, et qui sont maintenant en train de ressurgir dans mon travail, en fait. Le sens de toutes les recherches artistiques que j'ai pu pratiquer en peinture ou même un peu en écriture, ben ça a toujours été de dialoguer avec les morts, en fait, de me réconforter de leurs souvenirs, de les entendre, de les avoir auprès de moi et de me constituer une espèce d'armée invisible pour m'accompagner dans le monde, en fait. D'où toujours ce rapport, voilà, à écouter tout, voir si je ne les entends pas, en fait.
Thank you.
No vingi na mama porta di don di don dena sa pelava lu ki ji di don dena di don di. No vingi na mama porta di don dena sa pelava lu ki ji di don dena di don di. O ji za don para fe na mu taren ke la mi shi. O ji za don para fe na mu taren ke la mi shi. Nous le mettrons dans une chambre, dis-donc, dis-donc, d'aine, dans le lit que nous avons, dis-donc, d'aine, dis-donc, d'orgue. Mais quand la vigne dit bonjour, le navier s'est endormi. Mais quand la vigne dit bonjour, le navier s'est endormi. La navire ne m'y piatère, dis-donc, dis-donc, d'aine, après la zéro, le fugit, dis-donc, d'aine, dis-donc, d'orgue. La noviana mi piatea, di don, di don, dena, trana, daira, lukiji, di don, dena, di don, di. Me con la vigne, ni bonjour, le novier si réveilla. Me con la vigne, ni bonjour, le novier si divilla. O porta mi na zandela, di don, dena, treve pa ma fenici, di don, dena.
Thank you.
s'appelle le fugit du domaine du dandy.